When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Le sens de la fête, un podcast de Christophe Taillet pour Nick, la radio.
Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat ? En tout cas, pendant plus d'un an, un drôle de virus nous a empêchés de faire la bringue. En club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région, dans les campagnes, la bamboche, c'était fini, paraît-il. Pourtant, la fête qui est en train de renaître nous rassemble, nous transcende, nous transporte. En before, en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire ou underground, transgénérationnelle, multiculturelle, universelle. Dans ce podcast, nous explorons la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite pour finalement le retrouver, ce sens de la fête.
Il va se passer une nuit légendaire où Paris a sa revanche sur le 54, le 54 de New York. Paris a sa grande discothèque inédite. Un théâtre, comme dit Fabrice Aimère, est ouvert pour tout le monde. Des gens de tout milieu, de tout bord, qui vont se rencontrer pendant pas mal d'années, faire la fête. Le monde entier va en parler, et c'est parti.
Elle a tenu à ce que je la rejoigne dans cette galerie d'art, la Remède Galerie, en plein cœur du Marais, à Paris, où les clichés de la photographe Marie Rosy explorent, que dis-je, explosent le genre. Exploser le genre, c'est ce que fait Jenny Belair depuis toujours. Tantôt lui, tantôt elle, figure incertaine, mouvante, fluide. Un jour, un petit garçon, né en 1957, va se réinventer en diva métisse, élégante, excessive, radieuse. Dans les années 70, elle monte sur scène presque par hasard, et elle devient une figure des nuits gays parisiennes. Jenny Belair est une icône de celle qui ne s'oublie pas, une créature romanesque, terrifiante et séduisante qui marquera une époque, celle du palace. Très vite, Jenny devient même l'un des visages de la porte du club le plus mythique que Paris ait connu. Devenue physionomiste, elle a le pouvoir de vie ou de mort sur la soirée des prétendants. La déesse créole rend avec panache son jugement dernier aux fidèles du temple de la débauche. Avant même d'entrer dans le vestibule, le spectacle était dans la rue, le trottoir était sa scène, et sa vie, une galerie de portraits hors normes. Jenny Belair, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour.
La dernière fois que vous avez fait la fête, Jenny, c'était quand ?
La dernière fois que j'ai fait la fête, c'était bien évidemment avant le Covid, et c'était à l'Alcazar de Paris, rue Mazarine, qui a été repris par Fabrice Ghiberdi et qui a eu le courage de faire de cet endroit célèbrement divin, une rencontre avec une restauration divine, des DJ, des choses qui sont extraordinaires, qui me rappellent beaucoup, beaucoup, beaucoup la belle époque de musique.
Quelle place a eu la fête dans votre vie ?
C'est une place essentielle de la vie, je pense. Ça donne une façon de voir les choses différemment. Sans le brouhaha de la musique, des gens et de la festivité, du bruit cassé, des coupettes par terre, des boutons de champagne qui sautent en l'air, et bruit d'extase et de jouissance aussi. La fête, c'est un moment d'oubli, c'est ça. Par rapport à la dureté de la journée, la nuit, c'est un refuge.
Alors, avant de devenir la sublime Jenny Belair qu'on connaît, vous êtes né Alain Safo, un petit garçon métis guyanais, et vous racontez dans votre biographie que votre enfance, c'était, je cite, du Dickens, avec tout de même un côté chic. Alors, racontez-nous un peu le milieu, l'ambiance dans laquelle vous avez grandi. C'était une enfance pas facile.
Oui, c'est pas évident. Mon père revenait du bagne, il avait donc commis un crime avant-guerre, il a été gracié, il a tenu le phare là-bas, l'île du diable, et il a rencontré ma mère, une petite guyanaise, toute petite, qui est aussi infirmière, et elle est venue à Paris, il est venu après. Et ils ont été ensemble un petit peu. Ce fut très difficile, pas d'argent, rien. Et je ne dis pas que pour calmer tout ça, ma naissance fut pour eux, pour ma mère, je pense, une joie. Mais je n'ai pas eu d'enfance, évidemment, on me l'a volé, étant donné que maman est partie très tôt, à 42 ans, de manière douloureuse et effroyable par un cancer de la bouche. Et après, il y a eu des hauts et des bas, Emmaüs pour les vêtements. Enfin, donc, un parcours déjà au départ devenant complètement à l'opposé d'une établissement bourgeoise ou d'un classique famille, etc. Donc, je n'ai pas connu ça.
Du coup, dans cette enfance, on comprend qu'était pas évidente. J'imagine que ce n'était pas très festif chez vous. C'est pas enfant qu'on vous a inculqué un sens de la fête. C'est quelque chose que
Je crois que la festivité, c'est dans le cœur des parents. Pendant qu'ils sont vivants, ils vous donnent un regard, une tendresse. C'est ça, pour moi, la festivité, d'avoir un père et une mère qui vous donnent une tendresse, ça c'est chic.
Vous avez des souvenirs de fêtes plus jeunes. J'ai lu que vous adoriez le bal du 14 juillet quand vous étiez enfant.
Oui.
Quels sont vos premiers souvenirs
de fêtes? On habitait pas loin de l'avenue Grande Armée, nous étions au pied de l'avenue Grande Armée. Et là, naturellement, 14 juillet le matin, il y avait des militaires qui arrivaient avec des chars, des machins, des trucs. Donc c'était très impressionnant et fascinant. Et après, hop, je partais et j'allais tout de suite aux abords des Champs-Élysées où je n'allais pas sur l'avenue, mais je restais sur l'étoile pour attendre le président, enfin, la parade qui allait arriver. Cette vision de guerre devenait une vision de fête. C'est très étrange quand même, parce que d'autres pourraient flipper, comme maintenant on voit notre sécurité, des militaires mitraillettes qui passent par le plan Vigipirate, qui cassent un peu l'ambiance dans Paname, parce que c'est ainsi, nous sommes menacés. Mais là, c'était vraiment deux soldats, garde républicaine, de la musique et de tout ce qui est ambiant. C'était pour moi, waouh, c'était génial. Quoi.
Qu'est-ce qui vous plaisait là-dedans, en fait?
Pas vraiment l'uniforme, j'avoue. Mais ce qui me plaisait, c'était la musique et les gros engins. Je sais que tout le monde va rigoler. Pas tout de suite. Les gros engins, c'est-à-dire que, je sais pas moi, les chars, les trucs qui passaient, à te regarder, puis après, les avions, le bleu, blanc, rouge, on est créole, mais on s'en fout parce que c'était le jour où je trouvais que les gens étaient très sympathiques, ce qui s'appelait patriotique. Patriotes dans leur tête et que tout le monde, il n'y avait aucune distinction de quoi que ce soit.
Vous avez été aussi victime de racisme?
Non, j'aimerais tout de suite où j'ai été d'emblée petit, car j'étais un petit garçon.
Alors commençons
là-dessus,
par ça.
J'y tiens beaucoup. Parce que le jeu du côté de petite fille, où j'étais petite fille, non. Je me suis inventé un personnage avec des apparences, l'apparence féminine. Mais j'étais et je suis un garçon sans contrefaçon. Ça fait chier pas mal de gens parce qu'ils m'identifient comme étant une diva, une femme. Tout ça, c'est un costume porté. J'affirme ne pas avoir une identité. J'admire ceux qui l'ont, cette identité féminine, les trans et autres qui font un travail remarquable pour exister, pour être parmi ces personnes que j'adore, elles sont très cultivées, étonnantes et demandent chaque fois une reconnaissance, un respect par rapport à leur identité. Moi, dans l'ambivalence que je donne, ça donne un quiproquo, mais je ne vais pas jusqu'au bout de ce qu'elles font. Donc au départ, j'étais donc un petit garçon.
Et alors, ce petit garçon, à quel moment il a commencé à devenir Jenny Belair, justement?
Alors là, vous parliez d'être petit garçon, mais Jenny Belair, c'est venu beaucoup, beaucoup, beaucoup longtemps après, mais pas tout de suite. Après avoir joué dans les caniveaux avec des faux avions et des petits bateaux en papier qui coulaient dans le ruisseau avec mon frère, petit à petit, je sais pas si ça intéresse les gens d'entendre que avant qu'on parle de fête, la maman part très vite, le papa est fatigué et il décède. Donc tout de suite, j'étais amené à être seul, vraiment seul. Donc précarité, bien sûr, SDF pendant pas mal de temps, d'où cette histoire de Dickens et Zola, parce que quand on était SDF, comme maintenant on peut voir, et ça a toujours été, et c'est toujours pour eux, quelque chose de très compliqué à pouvoir survivre, une histoire de survie, et de regarder sans y participer la fête que font les autres. La fête de partir le matin, de rentrer le soir, quand vous êtes par terre ou dans un coin, de voir des gens qui sont hyper heureux, qui sortent d'une fête ou qui vont à une fête. Sans que je puisse m'en apercevoir, je vais rentrer petit à petit dans la fête dont on parle.
Alors justement, cette fête, je crois qu'un des premiers clubs où vous mettez les pieds, c'est Le Nuage, qui était une boîte de nuit Saint-Germain-des-Prés.
Oui, une boîte de nuit derrière le drugstore Saint-Germain-des-Prés. Une partie de la rue de Rennes où là il y avait des gigolos mâles, je ne savais pas tout ce qui existait d'ailleurs, qui faisaient le tapin. Et je suis rentré, traîné parce qu'il fallait rentrer assez tôt pour ne pas perdre sa place sur l'emplacement pour dormir sous le pont. Je sais, ça fait un peu misère, mais peu importe. Et j'étais habillé d'une manière un peu quelconque, enfin, toujours un peu propre. Et j'ai toqué à une porte. Et un mec m'ouvre la porte, voilà, vas-y donc, et je vois des mecs dans la boîte qui dansent, il y a des nanas, joyeux de rire. Je me suis faufilé dans le coin, j'étais assez joli. Et j'ai vu un show à 2h du matin, un spectacle avec des mecs qui se mettaient en femme et qui singeaient en playback, Diana Ross, ou Yvan Printemps, ou plein d'autres trucs. Et ça m'a interloqué, pas fasciné, mais interloqué. J'ai pu y retourner de temps en temps, un peu, je commençais à fausser compagnie aux autres. Et c'était un repère pour dormir. Et à un moment donné, je dors. Mais on me réveille en pleine nuit. Dis donc. Et puis, comme je connaissais la chanson Oh Happy Day, qui était dans le show de Bobby Shaw, la Tipa Claude me fout le micro sous le nez. Elle me dit chante, chante. Et puis, je me suis mis à chanter Oh Happy Day, Oh Happy Day. Oh, happy day. Wow, quelle voix! T'as une voix extraordinaire. Je dis, ah bon, t'as une voix. Je dis, non, allez hop. Ben, reviens demain, le soir, petit à petit. Vu ma gouaille, ils ont décidé, ils disent, écoute, tu peux y aller, tu peux nous présenter. Et j'ai commencé à mettre pied là-dedans, où officiait déjà Guy Cuevas au platine.
Guy Cuevas, futur DJ du Palace.
Et j'ai commencé à présenter le show comme ça, quoi. Le Bobby Show.
Incroyable, vous avez mis les pieds dans ce monde un peu par hasard, voire totalement par hasard en fait.
Je crois que le hasard c'est toujours un truc très étrange, hein, le hasard.
Décrivez-nous cet endroit, c'était comment? C'était tout petit?
Tout
je
petit,
crois.
Ouais. Petite boîte très sympa, il y avait Gérald Nanty qui était là avant, après ça a été Jean-Pierre Schmitt. Un endroit petit, pas très grand, il n'y avait pas de scène, donc c'était à plat, une petite loge, mais toute petite, à trois, on était déjà en train d'étouffer. Et petit à petit, ils m'ont demandé de faire un truc, un numéro, et j'ai dit pourquoi pas. Et un mec avait mis, c'est pas Guy, avait mis Nicole Croisi, cette musique que j'aimais bien, et puis à un moment donné, quelqu'un l'a bousculé, parce que le platine DJ n'existait pas, c'était vraiment abrupt, il était debout sur le tabouret, donc quand les gens dansaient, ils bousculaient le truc, et subitement, de 33 tours, c'est passé à 45 tours. Et j'ai pris ce playback, Et j'ai vu que ça faisait rire énormément. Énormément, énormément, énormément rire. Et Une femme avec toi, n'est-ce pas, pour le titre. Et puis, je voyais des gens que je connaissais pas. Des gens importants, la mode. Tout ça, c'était en train de pisser dans leurs culottes. Et il s'est passé que la lumière, quand on vient de rien, quand on n'est rien, et c'est besoin qu'il y ait une lumière sur vous qui tombe et qu'on vous applaudit à tout rompre. C'est la meilleure des nourritures. Vraiment la meilleure des nourritures. Et voilà, ça m'a fait un drôle d'effet. Mais on m'a demandé après, j'ai fait Barbara Streisand, Probably Blue Thinking of You, en panneau roulette, s'il vous plaît. Donc on venait partout Paris, venez voir ça. Je tombais sur mon fion à chaque fois. Il y avait quelque chose.
Qui fréquentait le nuage à l'époque ?
Le cinéma français, Sapritch, Thierry Leluron, Jacques Chazot, Saint-Laurent et d'autres gens qui faisaient le mouvement du milieu gay de l'époque, qui venaient dans ce petit truc pour s'encanailler. Mais soit que les grands de ce monde venaient plutôt pour boire, ou soit au bar, aux tables, pour se réunir. Et la plus belle chose, c'était l'humour. Et l'humour, ça a été pour moi la première chose qui m'a fait tenir. La dérision, l'autodérision et l'humour. J'y tiens beaucoup. Ils avaient aussi leurs soucis. Moi, j'avais les miens, j'avais pas encore. J'étais encore à chercher un endroit pour squatter, pour dormir. Mais je voyais que c'était leur force. Et l'alcool aidant, ils se confiaient à moi. Les grands ou les petits. Et je me suis rendu compte que, encore une fois, j'étais pas seul dans des désarroi, même si eux avaient un lit pour dormir, un peu d'aisance, de l'argent, de célébrité ou rien d'autre. Waouh ! C'est là où on comprend l'école de la vie, on se dit, bah d'accord, on n'est pas seul.
Vous avez découvert à travers la nuit la misère humaine, en fait, la misère affective.
La misère affective, oui. Et puis cette misère de se cacher. L'homosexualité était réprimée. Quelle boîte n'a pas connu à l'époque 18, Scaramouche, Le Nuage, et j'en passe d'autres, même le Club 7, subitement un contrôle. Police, vos papiers, contrôle de police. On fichait les homosexuels. On était fichés.
Donc c'était littéralement un refuge.
C'était un refuge, mais il y avait une appréhension de ça, quoi. Je veux dire, c'était très... C'était pas rigolo, on pense que c'était très amusant. Que nenni, pas du tout.
Et vous, vous êtes senti tout de suite à l'aise dans cet univers ?
Oui, je suis senti tout de suite à l'aise, mais je n'aimais pas du tout ni le goût aux hommes, ni le goût à la sexualité. Il y a une folie qui fait qu'on a envie de ne pas dormir et que la nuit continue constamment sans dormir. Mais malheureusement, le corps, au moment donné où il faut, on veut continuer la fête, il a besoin de dormir dans ce qui peut s'effondre. Mais on a envie que la fête continue pour tout oublier.
Et vous avez réussi à oublier dans la fête les choses que vous essayez de laisser derrière vous ?
Non. On se torche la gueule, c'est-à-dire on boit beaucoup. Coupettes, les godets offerts, les machins, les trucs. Donc on est toujours enivré de quelque chose. On est enivré, on est ivre. L'alcool est un espèce de liquide maudit qui fait oublier. C'est l'anesthésie, n'est-ce pas, du mal-être. Et l'alcool rend cette espèce d'euphorie qui dure pas longtemps parce que le lendemain matin où on n'est pas très en forme, mais ça fait tout oublier, donc ça aide. Je parle de l'alcool pour moi, parce que le reste je ne peux pas pratiquer du tout.
À peu près à la même époque, je crois, vous découvrez un autre haut lieu festif du Paris Interlope. C'est un tout petit restaurant qui s'appelait le Petit Robert. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Vous pouvez nous raconter ?
Le Petit Robert, c'est venu après, mais le Petit Robert à Montmartre, c'est un restaurant soit connotation gay, mais avec une approche intellectuelle. Et ça, c'est un milieu intellectuel, normalement de gauche, que je ne connaissais pas. J'y ai rencontré des gens fascinants, Bernard-Marie Coltès, avec Distance, Hervé Guibert. Et vous voyez ce que le genre qu'il y avait.
Et tous ces gens-là, tout ce petit monde-là, c'est des gens que vous croisiez aussi En boîte de nuit, au nuage, ou c'était vraiment deux univers assez séparés?
Il y avait deux univers différents. Je me suis inséré au phare dans le Front homosexuel d'Action révolutionnaire pour demander et revendiquer le droit à l'homosexualité, etc. Voilà, la reconnaissance contre le code Napoléon. Et après, il y a eu un groupuscule de déjanté, génial et gasoline. Molineux, Pacta Paquin, Hélène Azéra et plein d'autres gens, tellement dans leur coin que certaines radicales me trouvaient un peu traître par rapport que moi j'étais vraiment avec des tatas au Sac Vuitton et Saint-Germain-des-Prés, prout. Mais moi, que voulez-vous que je dise, c'était mon truc. Donc j'étais pas si radical que ça. Extravagante, oui. Mais radicale, non, pas vraiment.
Pour les militantes les plus radicales du phare, la discothèque, la boîte de nuit, c'était presque l'ennemi en fait. C'était bourgeois, c'était.
C'était du bourgeois, c'était de ouais. Contre des espèces de clinquants gays. Un peu surfait, machiné. Donc il y avait cette espèce de conflit constant.
Pour revenir un peu à la fête, à quel moment et comment vous rencontrez Fabrice Aymer ?
Fabrice Aymer, futur patron du Palace.
Ce moment-là est inattendu parce que rue Sainte-Anne était une rue où il y avait quand même pas mal de bars, le Broad. Le Pimps, le Piano Club, le Colony, le fameux Colony tenu par l'extraordinaire Gérald Nanty qui aura après le Matisse Bar, légendaire. Gérald avait cette école de connaître la variété, les stars de variété, Sylvie Vartan et Annabelle Buffet. Et à côté, il y avait un club, le Club 7. Dit-on, à l'époque, pas facile d'entrer, Jackie était à la porte.
Cette rue Sainte-Anne,
Jackie était à la porte. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? J'étais pas au courant. On m'y emmène. Vous arrivez dans une petite entrée, vous rentrez dans une espèce de où il y a un long bar, un grand bar. Et puis sur la gauche, il y avait des vitres, des choses. Il y avait un grand restaurant. Et là, il y a des gens qui brillent de tout plein feu, qui rient, qui fument, les femmes endiamantées. Et puis vous descendiez dans une espèce de. Dans un escalier en bas, avec une grande, énorme cave, avec des néons toutes les couleurs qui étaient accrochés au mur. Vous retrouviez Guy Cuevas et autres gens, et vous aviez la musique la plus incroyable de l'époque, Bobby Unfray, entre autres Jane Harris, et plein d'autres musiques, envoûtantes, endiablées. Waouh, ils sont festifs, ils sont heureux, ils sont bien entre eux, ils sont bourrés, ils sont bien. Claude Rinsan, celui qui tient l'endroit, est là, rude, sévère, mais faisant exactement ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire faire une partition complète des gens qui venaient pour la fête et non pour autre chose. Et un monsieur qui est là, très distingué, assez long, assez grand, Fabrice Aymer, qui est à l'aise, qui est là, qui accueille les gens au restaurant, avec un phrasé très, très ralenti. C'est une autre chose, on parle différemment, on a une attitude. Là, y a, dans un coin, il y a Klaus Nomi, après il y a Yves Saint-Laurent encore, après il y a Valentino, après il y a des stars, il y a David Bowie, après... Enfin, inouï. Puis petit à petit, j'y vais souvent, je danse, c'est la fête. Nous, on se dit, tiens, mais la vie nous appartient, enfin la nuit nous appartient dans ce petit truc-là.
Donc le 7, pour repréciser un peu, donc, c'était le club qui appartenait à Fabrice Aymer, qui sera le futur patron du Palace. Quand on vous entend décrire un peu l'ambiance, les gens qui étaient là, c'était plus milieu de la mode que le nuage,
bah
c'était
oui,
plus branché.
C'était... Quand on ne connaît pas, on se dit, mais mon Dieu, au premier abord, ils sont méprisants, qu'est-ce qu'ils ont? Et on m'explique, mais non, c'est pas facile, c'est un milieu de la mode. Ils sont en représentation, Jenny. Ah bon? Mais ils représentent quoi? Bah, la mode, les boutiques. Ah, bon. Regarde l'autre, la tenue, les chaussures. Ah, bon. Mais pourquoi ils regardent? Ils ont un regard assez hautain. C'est comme ça. C'est leur milieu. Un monde différent du mien, mais festif. Un truc étonnant. Étonnant. Pas facile. Tout quand on est habillé en graillon, genre habillé comme... Imaginez-vous, mes enfants, là, les vampes. Vous voyez les vampes? Ben, c'est moi, en charentaise, en machin, maquillé, avec une blouse, machin, une jupe, un truc, un collier pris aux puces. Enfin, un truc vraisemblable, quoi. Donc, on m'a expliqué que c'était déjà avant le Palace, un petit Versailles.
Ce milieu branché de la nuit, de la mode, qui n'est pas le vôtre, vous avez envie d'en faire partie ?
Ben, j'ai envie qu'il me protège, je ne sais pas encore où pioter, je n'ai pas de thunes. J'ai même demandé, j'en bafouille d'émotion, j'ai même demandé un soir à Fabrice Aymer, et je lui ai dit j'ai faim, et il m'a fait manger au restaurant. Vous vous rendez compte ?
Vous dites qu'il avait le génie de la fête. C'était quoi ce génie ?
L'intuition, le savoir de rassembler. Lui aussi, monsieur loyal de la fête et des nuits, de placer aussi ses gens avec de l'humour. C'est une sorte de mix de la vie. Mixer la vie, c'est mixer la fête. Fabrice avait ce don-là. Des gens qui sont sans lumière, les éclairer comme une paillette constante. Et ça, c'est beau. Je trouve ça très bien. Je leur remercie d'ailleurs.
Puisqu'on parle de mixer au platine, vous le disiez, le DJ c'était Guy Cuevas qui a commencé au Nuage et puis qui deviendra surtout aussi par la suite, qui fera la bande son du Palace.
Il y avait Guy Cuevas, il y avait Steven, il y avait DJ Claude.
C'était quoi son génie à lui ?
De doser une chanson américaine avec une autre qui parle d'amour, qui parle d'espoir. Un We'll Survive, une autre avec Diana Ross. Être bon DJ, c'est savoir le suivi des disques qu'on met après. Qui correspondent à une histoire, un suivi de messages, un message. Guy a toujours eu ce don.
Et alors le set, c'était, on peut dire que c'était vraiment les prémices du Palace ?
Oui, dans le choix musical, dans la fréquentation du Gotha.
Alors justement, c'est en 1978 que Fabrice Aymer reprend le Palace et il décide de vous confier l'entrée de ce nouveau club qui va devenir...
Non, il me dit c'est pas du tout.
Comment
ça se passe, c'est que je fais l'ouverture de 1978 au Palace. Je suis à l'inauguration comme tout le monde, à la porte officie Edwige. Edwige Belmore, la reine des punks, personnage étonnant, d'une androgynité sublime et d'une fille d'une beauté à tomber par terre. C'est elle qui ouvre la porte avec Fabrice, qui va donner le top départ à 23h avec un peu de retard d'ailleurs. C'est elle qui va rentrer dans la légende. C'est pas moi.
Vous êtes là pour faire le show en tant que public ?
Pas du tout. Je suis invité. Je suis invité.
Quels sont vos souvenirs de cette soirée d'inauguration ?
Le souvenir soudain qu'un théâtre immense, on n'est plus 450 personnes, on est 2005 et 1000 dehors. C'est quand même subitement un choc en 78. Un théâtre, comme dit Fabrice Aymer, est ouvert pour tout le monde. Et il va se passer une nuit légendaire où Paris a sa revanche sur le 54, le 54 de New York. Paris a sa grande discothèque inédite. Bon, on a vu ça aux années 20, aux années 30, etc. Mais là, il se passe tout de suite un événement, c'est ça, de voir des gens de tout milieu, de tout bord, qui vont se rencontrer pendant pas mal d'années et faire la fête.
Qu'est-ce qui crée l'événement ? Pourquoi, tout d'un coup, ce club est différent ?
Parce qu'il y a un côté poussif de l'époque, il y a une giscardisation un peu « oh là là, bof !» Peut-être qu'il y a un espoir pour beaucoup, qu'il y ait peut-être une gauche qui peut arranger ça pour donner un relan de liberté. Et ça tombe à point nommé. L'inauguration du Palace, nous avons droit à une panthère que personne connaissait, certains, mais d'autres, oui, dans le milieu. Grace Jones, qui va faire un show mémorable.
Et alors vous, à quel moment vous passez de l'autre côté ? À quel moment
À quel moment, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. J'étais en extra pour remplir les caisses. Je suis accoutré de manière invraisemblable, bizarre, une sorte de gros sumo, maquillé outrance, lèvres noires faisant peur. Ayant appris l'humour caustique et cinglant, je m'en donne un cœur joie. C'est un show, c'est un spectacle.
Ah oui, c'est le spectacle,
c'est un spectacle. Spectacle où dur, implacable. Et je vais petit à petit, sans m'en rendre compte, être quelqu'un qui va intriguer, être haï, bien entendu. On est toujours haï dans ce métier de physionomiste, on n'est jamais aimé, c'est normal. Détesté et à la fois adulé, c'est assez curieux. Et puis soudain arrive l'occasion d'une fête de Karl Lagerfeld, où Karl Lagerfeld a décidé de faire les nuits de Venise, la nuit des doges de Venise. Eric Stark me dit, écoute, on va préparer quelque chose. Du coup, je sais pas, moi, tu sais, moi, là-dedans, moi, je travaille pas ce soir-là, c'est pas... Mais si, j'ai construit un truc. Après, il m'a mis dans une espèce de parking avenue Foch, où il demeurait. Et là, il a fini de construire une gondole. Une gondole pour deux personnes, décorée gondole façon Venise. Et ben voilà, on va rentrer avec ça. J'ai appelé des mecs pompiers de Paris, ils sont 6, à porter la gondole. Et nous voulait-il pas arriver au palace au moment où l'ouverture de la soirée. Un monde de dingue, tout le monde déguisé, dans tous les sens, des costumes chics, enfin machin. Moi en espèce de marquise, il y a des témoins, il y a un film d'ailleurs, on peut le voir. Marquise, lui en marquise, sur la gondole, les autres porter la grosse. On a mis un temps fou à rentrer en gondole. Mais à un moment donné, naturellement, les pompiers, il y a une nana qui vient habiller en Montespan, genre le décolleté un peu trop plongeant, les tétons à l'air, et il regarde ça, il loupe la marche, on se casse la gueule. Et on est par terre. On voit une fête sublime. En bas, il y a un endroit qui s'appelle le Privilège, restaurant, fait pour les gens qui ont les moyens, qui peuvent. Enfin, il fallait un peu distancier le palace du tout venant pour en bas. Et tous les gens sont là, le monde entier, le Gotha. On avait le Gotha, vous voyez, mes enfants, c'est le Gotha, c'est des gens qui font le monde, le cinéma, la presse, la mode et tout ça, qui se retrouvent entre eux. Et pourquoi pas après tout. Tout se finit très tard, le monde entier va en parler, et c'est parti. Et le palace va offrir la possibilité aux gays qui se réunissent le dimanche au tea dance, où il y a un thé, il y a une musique, pour pouvoir se rencontrer, draguer, etc. Donc il y a une totale possibilité de liberté. Et blatipa, pas qu'un soir, Fabrice Aymer annonce, avant le vote, votez Mitterrand, hein, votez Mitterrand. Les habitués, bon genre, bien élevés, bien éduqués, vont être offusqués, donc ils sont au balcon là-haut, vont partir, vont se lever, vont tout casser, presque scandalisés. En revanche, le parterre, plein de monde, nous, on applaudit à tout rompre. L'espoir de la gauche, et vas-y donc, et la fête, et alors la fête déborde. Les autres s'en vont par des cris, par des machins. C'est là où j'ai vu commencer à comprendre qu'il y avait deux scissions dans la vie. Je ne savais pas qu'il y avait un côté droite, un côté gauche, un côté au centre, un côté de rue. Je ne savais pas. 81, youpi, ça danse. Tout le monde est ivre, tout le monde est défoncé. Défoncé dans tous les sens du terme. Moi, par ma trouille, l'ayant vu bien avant eux, dans la rue, les désastres d'une drogue, j'en ai jamais pris. On m'a foutu un acide accidentellement, ça m'a rendu malade pendant une semaine, parano et con, j'ai dit c'est pas pour moi. Coupette, coupette, coupette. C'était ça, et ça a toujours été mon remède.
Par rapport à ce que vous disiez sur Mitterrand, sur la liberté qui est arrivée à ce moment-là, la fête, à ce moment-là, avait quelque chose de très politique.
Tous les patrons et les patronnes de boîtes, aussi bien de boîtes lesbiennes, on les oublie trop souvent, toutes les autres boîtes se plaignaient déjà de difficultés d'ouvrir une discothèque, le voisinage, ça dérangeait, aussi bien pour les boîtes de filles que pour les boîtes de garçons. Nous étions quand même à l'époque de la pièce de théâtre, La Cage aux Folles. C'était quand même, la caricature de l'homosexualité était à son comble, grotesque.
Des lieux comme le palace ont contribué, en fait.
Mais oui, parce qu'ils contribuaient, parce que riches, pauvres, hétéros, bi, transsexuels, travestis du bois, ou je ne sais quoi, ou même fauchés, malfrats, tout ça. Tout le monde a pu passer cette porte.
Ça, c'était, vous le disiez tout à l'heure, l'important dans une fête, c'est le mix, vous disiez, c'est le mélange.
Mais oui, le mix qui n'existe plus, mais le mélange, quoi.
C'est ouais.
Le
mix. Ça existait au palace, c'était ça sa force, c'était le mélange. Non, et c'était votre rôle en tant que physio, aussi, de créer ce...
C'était notre rôle, nos rôles en tant que physio, entre Jean-Louis Georges, Edwige, et plein d'autres qui vont être là, Marc Chaison au Privilège.
Et ce melting pot, il est difficile à tenir, à créer et à tenir sur la durée.
Terrible, terrible, très compliqué. On n'est pas seul à décider. Il y a toujours un directeur, sous-directeur qui vient, en fait, rentrer quand même celui-ci, celle-là, il faut qu'elle rentre quand même lui, je ne veux pas ici. Pourtant, il n'a rien fait, il est rentré, il est très gentil avec moi. Débrouillez-vous, celui-ci doit payer, mais quand même, non, je ne veux pas savoir. Vous laissez trop de monde, il y a trop de monde, il n'y en a pas assez. La pression, entre la rue à gérer et derrière vous, est insupportable, intenable. Mais il faut tenir le coup. Mais c'est vraiment pas facile.
D'ailleurs, vous dites dans le livre que ce rôle, il était pour vous entre un rêve et un cauchemar.
Un rêve et un cauchemar, oui.
C'était quoi la part de rêve et quoi la part de cauchemar?
Ben, c'est ce que j'explique, c'est-à-dire que les divins arrivent gentiment, pour faire la fête, ils sont lookés, ils jouent le jeu, tout ça. Et après, de l'autre côté, il y a des violents qui veulent arriver pour casser du PD ou je ne sais quelle chose, pour suivre une nana, une gonzesse pétée, chic, dont ils veulent s'incruster avec elle. Il faut faire barrage. Après, il y a des gens dits ordinaires. Ce terme est insupportable parce que j'appartiens à ces ordinaires. Je suis quelqu'un qui est dans l'ordinaire de l'ordinaire. J'appartiens au peuple. Même si on dit diva, diva du trottoir du bitume, c'est moi.
Comment vous faisiez pour tenir?
L'alcool.
Essentiellement.
Les nerfs, l'alcool. Donc souvent l'agressivité.
Il y a eu énormément de rumeurs, de vaudous, de pouvoirs surnaturels qui vous ont entouré. Ça, vous en avez joué à la porte du palace?
C'est un domaine qui est très particulier. Maman m'a appris les bases de croire en Dieu, de croire aux forces obscures, de croire, ne pas oublier d'où était issue maman, de la Guyane. Et elle a surtout appris l'intuition, non pas les aiguilles portées à la poupée. Cette caricature est insupportable, mais elle est drôle. Mais d'avoir l'intuition.
Et ça, ce que vous appelez cette intuition, c'est quelque chose qui était aussi un don, j'imagine, à la porte d'un endroit comme le palace pour sentir les gens.
Nous, on fait des conneries, on peut se tromper, j'en ai fait des pas mal, et je suis pas seul d'ailleurs. Hein. En effet, des conneries, bon, mais il y a l'intuition de savoir si lui va vraiment pouvoir payer la bouteille quand il rentre, si l'autre va pas emmerder un gay parce qu'il n'aime pas les gays, qu'il fait semblant d'en être un, lorsqu'il est le gay l'engage à une participation autre que festive. C'est toute intuition de savoir à qui on a affaire. Puis alors, je rends hommage aux gardes du corps, aux services de sécurité, faut pas les oublier quand même, qui sont là pour pallier aux problèmes. Avec souvent dans la nuit des bonnes castagnes, la nuit n'est pas toute rose. Souvent le trottoir est baigné un peu de gouttes, n'est-ce pas, de sang qui partent dans la rigole comme ça.
Vous avez des mauvais souvenirs?
Les mauvais souvenirs que j'ai vont être les mauvais souvenirs les suivants. C'est qu'à un moment donné, tiens, c'est bizarre, il y a moins de monde. Qu'est-ce qui se passe? Machin est fatigué, le truc est fatigué, l'autre est fatigué. Ah bon? Voilà. Ah, comment tu vas? Ça va. Mais je suis crevé. Je suis très crevé. C'est vrai, t'as une drôle de mine, t'as une drôle de gueule. T'es fatigué. Qu'est-ce que t'as? Rien, je sais pas, je suis crevé. Et petit à petit, nous allons commencer à comprendre qu'il se passe quelque chose d'effroyable, d'horrible, qui arrive. Une maladie sexuellement transmissible dont on ne sait pas ce que c'est, qui serait né par les rumeurs, par l'homosexualité, comme disaient certains, par le péché. Ce virus va décimer et rendre la boule disco noire, couleur mauve, couleur rouge de sang, ce sang contaminé. La fête petit à petit va s'éteindre, les néons, les lasers, la musique, nos frères s'en vont. Ce fut un véritable, j'ose dire le mot, génocide, ce sida. Effroyable. Impossible redémarrer. Nous, je ne dis pas j'ai. Ce serait inconcevable que je dise moi, j'ai. Je dis nous. Milieu, monde de la nuit, avons tous perdu un frère, un ami, un proche. Décédé. Le bruit des graviers du cimetière me reste toujours dans mon oreille et dans mon souvenir. Alors la fête après, elle diminue. Elle n'est plus là. On voit dans le laser une sorte de symbole rouge, un ruban qu'il faut mettre. AIDS, ACT UP, lutter contre SIDA, le plaisir avec des préservatifs. Pour qui que ce soit, pour les hommes, puis après on pense que c'est pour tout le monde et on donne. Le désir, le plaisir va s'éteindre petit à petit et nous allons nous diriger vers des effroyables souvenirs, remplis de souvenirs. Ça, c'est pas la fête. C'est pas la fête, c'est la vie.
Et donc, quand le sida arrive dans les années 80 et qui décime des milliers de personnes, notamment dans le milieu homosexuel, dans le milieu de la nuit, c'est une hécatombe. Comment on fait pour continuer à vivre, justement? Où est-ce qu'on va chercher l'énergie de se dire, ben, c'est la vie et il faut continuer à vivre et peut-être à refaire la fête un jour? Est-ce qu'on refait la fête après?
On dit de refaire la fête, mais pour ma part, j'étais occupé à consoler et à donner de la force à ceux qui en avaient besoin. L'esprit de fête n'y est plus, il ne faut pas se leurrer. C'est un semblant de fête. Le palace va continuer, avec le courage de Claude Norinson, à donner au palace... essayer, après le décès de Fabrice Aymer, qui n'est pas décédé de cela, je le répète.
Un cancer en 83.
Mais voilà, d'essayer de redonner un blason au palace, mais l'esprit n'y est plus vraiment. Après, il va être repris par Régine, quelque temps, Régine, mademoiselle Régine, qui va essayer de donner quelque chose, ça n'a pas marché, patatras. Et l'histoire va se conclure en 93, je crois, ou 94, où la porte est close, c'est terminé, au revoir. On prend une bouteille de champagne, on la vide sur le trottoir, on prend une quarantaine de coupettes en symbole, on la casse sur le trottoir, et c'est fini. Et puis après, petit à petit, il y a d'autres endroits qui vont arriver, qui vont surgir comme ça, d'autres DJ, d'autres nouvelle génération qui arrivent et qui fait que le Paris gay va revenir. Il y a pas oublier non plus le Queen Champs-Élysées qui va donner un coup de pouce à la fête grâce à Galia Sanimo, un coup de pouce incroyable où tout ce qui est gay, jeune, rigolo, de mode et compagnie vont se retrouver, non pas dans un palace, mais dans un grand espace où il y aura une musique différente, d'emblée, géniale, où il va se passer chaque soir, chaque dimanche soir avec Galia et avec d'autres gens, des événements et un esprit de fête Champs-Élysées assez étonnant, courageux. Faire une boîte Champs-Élysées pour la gaititude à cette époque 90, pour moi, respect,
vous
voyez.
Vous y alliez?
Oui, bien sûr.
Et vous avez quel souvenir?
Un souvenir rigolo, en VIP. J'ai du Médéré dans la salle, criait Galia Sayou. J'ai du Médéré dans la salle. Waouh, que je ne connaissais pas vraiment le coin VIP. C'est bizarre. Alors on y est, on voit des gens qui sont aisés, qui prennent des bouteilles. Chéri, comment tu vas, darling? Tic, tic, tout tic. Mais après, on a qu'une envie de se barrer et de danser avec les autres. Ça va, quoi, la nuit, c'est pas spécialement le VIP, la compétition de Dom Pérignon. Quoi. C'est autre chose, la nuit, il faut arrêter. Quoi.
Vous aimez danser?
J'adore danser, je danse moins, mais j'adore danser bossa nova, la disco, tout machin. J'ai toujours tortillé mon haricot d'une manière merveilleuse.
Oui, il paraît que vous dansiez très bien et que vous faisiez bander tout le public.
Il faut savoir déambuler et avoir non pas un corps de liane, mais quand on sait servir de son embonpoint et danser comme si on était un Twiggy, n'est-ce pas, la mannequin anglaise qui pesait 50 kilos, soit que ça peut être de l'aisance, de légèreté, oui.
Parlez-nous de l'importance du costume, du maquillage dans la fête pour vous.
C'est la toison d'or. C'est comme mettez au Crazy Horse des nanas qui n'ont pas de perruque, elles ressemblent à rien. La sublimation de la femme en drag, de drag queen, c'est l'exagération totale de la femme en Marilyn Monroe, en Eartha Kitt, en Naomi Campbell, ou en ce qu'on a envie de fabriquer comme légende. Puis c'est se cacher, se maquiller. C'est cacher avec le maquillage à sale gueule qu'on a. Je veux dire. Et puis, c'est embobé de parfums. C'était Versailles. C'est Versailles.
Mais là, c'est
en
Versailles.
Mieux. En mieux, parce que Versailles, ça sentait le graillon. Mais c'est Versailles avec tous ces parfums de gens qui se parfumaient. C'était un odorama extraordinaire.
En fin de soirée, ça sent peut-être un peu moins bon. Et le maquillage dégouline.
C'est comme la vie. À un moment donné, Mais bon, il y en a qui savaient quand même avec l'élégance partir à temps. D'autres, c'est différent, il fallait les jeter pour dire, bon, c'est bon, quoi. Il est 6h30, on se casse, parce qu'il faut rentrer, quoi, dans la mare. C'est ça.
Mais d'ailleurs, quelle était votre routine quand vous étiez physio au Palace, en fin de soirée, quand vous fermez les portes, qu'est-ce que vous faites? Ça continue de boire des coups? Ça,
oh, je me barrais souvent avant, et puis je rentrais, j'essayais d'éambuler, de rentrer, ou sinon, jusqu'à la fin, j'assistais à réveiller l'un ou l'autre qui dormait sur la banquette, dans le mezzanine, dans le truc planqué, un mec qui était défoncé, l'autre qui était ivre de mort, tout bordel... supplier Paca, la Paca dit, je lui dis, écoute Alain, tu rentres quand même, là c'est l'heure, il faut rentrer. Oui, Dini m'a dit, oui, il faut rentrer. Gna. Ça fait 5 fois que vous avez fait l'amour, il serait peut-être temps derrière la base, de peut-être cesser, quoi. Ouais, mais on a encore envie. Ben non, ben, trouvez un hôtel, partez, mais c'est bon, quoi. Enfin, les excès, il fallait les stopper pour... Donc couper tout envie. Pour ça que des fois, on me dit, oh, cette espèce de elle nous a frustrés dans... Ben oui, mais à un moment donné... Il y a des règles, car après il y a le nettoyage, et après il y a les gens de jour. Fabrice ne dort pas, plein d'autres gens dorment, parce que le lendemain, c'est dans le bureau, à 13h, il faut travailler pour préparer la fête du lendemain.
Vous dormez la journée ?
Non, jamais dormi.
Non.
Dormir, il faut savoir où déjà dormir, après j'ai pu me caser chez les uns les autres, mais dormir pour moi, c'est apprendre à mourir, à disparaître.
On parlait au début de la misère affective qu'on pouvait trouver chez un certain nombre de gens du gratin qui sortaient beaucoup. Et vous dites, par exemple, dans le livre, vous dites à propos de Patrick Devers, quand des personnalités sortent autant la nuit, c'est pour s'évader d'un contexte déplaisant. Elles sortent parce qu'au fond, elles s'emmerdent. Vous oui. pensez que pour beaucoup de gens, la fête, c'est un cache-misère?
On se casse. S'ils sortent, c'est parce qu'ils veulent voir autre chose. Ils sont chiés. Ils ont tout. Mais qu'est-ce qui leur manque? L'authenticité ou le bonheur. Et dans la nuit, tout est désuet. Tout est fake, souvent. Darling, chérie, comment vas-tu? Ça va être un chic, tout chic. Et maintenant, tu veux prendre un côté? Oui, voilà, t'as pas un truc? Oui, bon, voilà. Puis on rentre, on est bourré, on rentre chez soi. Et puis, il n'y a que le taxi qui dit, oh, je suis très content de vous avoir, madame. Monsieur, oh, c'est une artiste, un artiste. Et puis voilà. Et puis, dans le main, on vous appelle, le studio vous appelle. Vous tournez, le rouage. Et voilà. C'est ça la vie.
C'est très triste ce que vous nous racontez.
Exactement, mais c'est la vie.
Vous dites qu'à un moment donné, à force de faire la fête, je vous cite, vous êtes devenue complètement folle, folle au sens de folie. Les nuits blanches m'ont fait perdre mes quelques repères. Vous êtes perdue dans la fête à un moment donné?
Mais on se perd, évidemment. Quand on fait que boire, bouffer, rigoler, boire, bouffer, rigoler et tutut en plus, et qu'on en oublie de vivre. On oublie la réalité de la vie, on pète des plombs, surtout quand on ne prend pas de substance, comme je vous ai dit de le dire. Donc on pète des plombs, on pète la réalité, on est là dans un truc, on est une lunette noire dans la journée, on est un secours, on est ailleurs, on s'en fout.
La fête peut tuer?
Oui, la fête tue. La nuit tue.
C'est-à-dire?
Excès, abstinence d'oublier de manger, d'oublier de vivre... s'oublier, toujours sortir, le corps tient plus, il lâche, pan, on crève.
Et vous, comment vous êtes sorti de ce tourbillon à un moment donné?
Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Tiens, je suis en train de mentir. Je crois que c'est par le soutien d'amis. Je crois que c'est par plein de personnes qui m'entourent que j'ai pu réellement m'en sortir grâce à eux. Ce soutien familial. Famille inventée qui fait qu'on s'en sort. Voilà, puis il y en a qui ont des enfants, t'entends les gousi-gousis, le machin. Voir une autre vie, autre chose que de vivre toujours sous le manteau des étoiles, c'est quand même un peu particulier.
Bah alors, depuis tout ça, quelle est votre vie, Jenny Belair? Est-ce que vous avez continué à sortir ou alors vous évitez la nuit, vous évitez les lieux
branchés? J'ai continué à sortir, j'ai aidé pour la dernière boîte que j'ai fait, c'était chez Maxim's. Mais tout de suite, j'ai eu un problème, c'est que ce qui se présentait à moi n'était pas du tout... j'avais perdu le code, j'ai perdu le fil. Ma façon d'agir en 80, ça n'a pas marché du tout. Certains l'ont très mal pris. Je savais que c'était la dernière fois que j'allais faire physionomiste. That's enough.
C'est en quelle année, ça?
Il y a très peu de temps, il y a 10 ans à peine. Ça suffit. No clubbing. Je crois que ça va, il faut passer à autre chose. La fête, on la fait chez soi avec des amis, on se la réinvente constamment. On la surenchérit, on l'imagine. Et puis on fait la fête dans son cœur, dans ses souvenirs. C'est ce qu'il y a de plus beau, je trouve.
Qu'est-ce qui peut tuer la fête ?
On en est témoin, le Covid. Une épidémie. Une guerre. C'est la maladie, c'est l'effroyable, c'est l'inattendu. C'est le cataclysme que nous vivons. Et c'est aussi une insécurité mondiale où l'on voit que l'être humain se hait, ne veut pas faire la fête, ne connaît pas la fête. Et il faut vraiment s'armer de courage, surtout, pour pouvoir affronter ce qui va venir, c'est-à-dire une fête qui va être en sourdine, dans des caves, en dessous, underground. On ne pourra pas subodorer, on se dira, il y a une fête géniale, mais c'est en dessous. Code 324. Personne ne t'accueillera, il y a un robot. Tu mets ta carte. Toi, la porte s'ouvre, t'as pas de bruit, t'as un long couloir, tu descends encore l'escalier, et là t'as une porte et boum, 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 musique. Mais surtout pas ne dire qu'il y a une fête, surtout pas. C'est ça l'avenir. Je le prédis, c'est ça qui va arriver.
Eh bien, c'est noté, c'est enregistré. On verra si l'avenir vous donne raison. Alors, pour conclure, qu'est-ce que c'est au final pour vous que le sens de la fête, sa raison d'être profonde ?
Vous avez le choix entre voir un psychologue, un thérapeute, un psychiatre, ou d'aller dans un repère religieux ou scientifique ou je ne sais quel autre pour que il puisse vous donner des questions ou réponses. Comment ou puis-je, que faire pour avoir le bonheur, pour me sentir bien quelques instants, pour être moi-même et retrouver mes semblables? Jenny Malin va vous répondre, si vous avez envie de faire la fête, alors n'hésitez pas. Musique, alcool, petit climat, on baisse la lumière, on s'amuse, on danse sur la vie, on danse sur le monde, on danse, on virevolte, on ouvre la porte à ses voisins, on fait écouter sa propre musique, il apporte la sienne, on se crée un petit palace et on refait la boule disco et non pas le monde, mais on refait la fête au sens magique, ce qu'on appelle faire la fête.
Le sens de la fête est un podcast de Nicla Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation, Malo Williams.
Si vous deviez choisir une chanson, un morceau de musique ultime pour faire la fête, ce serait lequel pour vous ?
Ah, alors là, il y en a tellement que c'est... Quel est votre choix, vous ?
C'est moi qui pose des questions.
Non, mais moi, je partirais sur un mix, un très bon mix de Grace sur La Vie en Rose. Mix House, La Vie en Rose de Grace Jones. Pour moi, c'est le top.
Quand il est bon, on ne sait pas, il n'est pas le pouvoir. Je vois La Vie en Rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entre dans mon cœur. Bye.